Bonjour chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission. Grande joie de vous retrouver pour cette fin de mois de juin. Avec l'été qui se prépare, les valises qui vont se remplir et pas seulement de maillots de bain et de crème solaire, j'espère aussi de livres et de bons livres. Je suis ravie de recevoir dans cette partie d'émission Thibaut Dary, qui est directeur des éditions du Triomphe. Bonjour, bonjour Thibaut.
Merci, bonjour Valérie, bonjour à tous les auditeurs.
Et j'ai convié Richard Decez, qui est directeur de la rédaction de Radio Courtoisie et patron d'émission de Cases et Bulles, pour ce début d'entretien où nous allons au départ parler des bandes dessinées du catalogue des éditions du Triomphe. Et après, on continuera avec toute autre sorte de livres. Merci à tous les deux. Thibaut Dary, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions du Triomphe, pouvez-vous nous présenter cette maison qui a bientôt 25 ans, si je vois bien?
Ouh là là, elle a 25 ans depuis plusieurs années, ma chère Valérie.
Elle est
de 80.
92, ah oui, oui, en effet. Voilà. Elle n'a pas encore de cheveux blancs, mais...
Bientôt 35, en fait.
Bientôt 35, voilà. Ah ben ça c'est moi, voilà. Vous voyez, moi je sais lire, mais je ne sais pas bien compter.
Mais non, mais merci de nous rajeunir. En tout cas, voilà, nous sommes une maison d'édition familiale qui publions des livres pour la jeunesse, un peu aussi pour les adultes quand même, de la bande dessinée, de l'album illustré, du roman jeunesse, roman ado, quelques romans pour les adultes. Et nous nous sommes lancés en 1992 en rééditant des titres qui avaient disparu ou qui étaient devenus rarissimes. Et puis peu à peu en développant nos propres créations. Voilà, donc ce qui explique que dans notre catalogue, il y a des œuvres que vous avez pu connaître, chers auditeurs, il y a bien longtemps.
Donnez-nous des titres.
On a commencé au tout début en rééditant Fripounet et Marisette, qui était un duo de jeunes héros Berrichon, qui était publié dans les années 50-60. On a même republié du Sylvain et Sylvette avec des inédits qui dataient des années 40. Voilà, et puis je crois que vous aimez cette série, en tout cas vous en avez entendu parler et vous l'évoquiez juste avant qu'on prenne l'antenne, Trilby, qui est voilà, ce sont des romans jeunesse qui datent bien avant 1992. Donc voilà, ça fait partie de titres que nous avons réédités parce qu'ils n'étaient plus disponibles sur le marché. Il y avait quand même identifions-nous à l'époque, alors c'était pas moi qui étais aux manettes.
Voilà, on peut rendre hommage à Sophie et Didier Chalufour.
Qui sont des fondateurs,
qui ont répondu à cette attente, à la fois sur le plan éditorial, de l'histoire du patrimoine de la bande dessinée
et
de bons romans et de la littérature. Et puis aussi, le charme particulier de ce lien presque familial avec des auteurs.
Exactement. Alors, les auteurs en question, pour certains d'entre eux, je prends à nouveau l'exemple de Fripounet et Marisette et de René Bonnet, qui était toujours en vie, en fait, lorsque l'idée de le rééditer est venue aux éditions du Triomphe. Et donc, il y a eu, comme ça, au début de la maison d'édition, une amitié forte avec des auteurs qui étaient retraités, qui depuis longtemps n'avaient plus de contrat avec des maisons d'édition. Ça faisait pour certains d'entre eux 10, 15, 20 ans qu'il n'y avait plus de nouveautés de leur part. Et puis d'un seul coup, c'était une façon de retrouver l'activité d'édition, mais aussi le lien avec le public. Et donc rencontrer du public, recevoir des courriers de jeunes lecteurs. Voilà, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de ces auteurs que le Triomphe a connus dans leur vieillesse ont quitté ce monde pour un monde meilleur, voilà, il y a quand même toujours aujourd'hui un appétit, un désir, identifions-nous, de nos lecteurs, de retrouver ces vieilles séries, mais il y a quand même aussi un souhait de renouveau.
De nouveauté. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Vous avez tradition, modernité, patrimoine, création.
Exactement.
Richard Decez, comme journaliste culturel, on peut dire cela, est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée des éditions du Triomphe? Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous pensez éditions du Triomphe? À quoi pensez-vous?
Alors, Fripounet et Marisette, parce que d'abord, les albums étaient très intéressants. Ils étaient un format carré, grand, inhabituel.
Exactement, les albums rouges de Fleurus, qui étaient carrés, effectivement. C'est un faux carré, mais c'était un format, effectivement, inhabituel.
Et Oscar Hamel, par exemple.
Oscar Hamel aussi, dans ce même format.
Dans ce même format, oui. Ouais.
Et Pierre Prost. Que j'adorais à cause de Caroline et que j'ai retrouvé dans les éditions du Triomphe avec Fanfan, et donc vraiment un dessinateur remarquable, et lui aussi d'ailleurs faisait partie de ceux qui étaient un peu mis sur le côté et que vous avez contribué à revivifier.
Oui, exactement, et on recevait Pierre Probst dans les bureaux du Triomphe quand on a commencé à rééditer Fanfan. Il habitait pas loin du 17e arrondissement,
voilà, où était à l'époque fameuse rue Bayen. Ouais.
Je crois qu'il était à Asnières, si je me trompe pas. Voilà, donc à présent nous sommes en lien avec sa fille et sa veuve, mais bien entendu c'était un très grand illustrateur et Fanfan, Tim et Poum, ou bien Ma première histoire de France sont des titres de Pierre Probst qui effectivement rencontre un public, et Ma première histoire de France effectivement est un titre qui est très apprécié, qui continue de très apprécier.
C'est à voir dans sa bibliothèque, tout à fait. Et dans quand on pense édition du Triomphe, les BD des éditions du Triomphe, elle réconcilie souvent parents et enfants, les parents qui disent ah mais ils ne lisent que des BD, oui mais c'est une BD historique, ah bon alors d'accord. Ça marche un petit peu comme ça, c'est une petite clé de votre succès.
Alors, ça marche tout à fait comme ça. Je pense que vous avez parfaitement raison. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait en dire. D'une part, la bande dessinée du Triomphe, elle est souvent achetée par les adultes pour les enfants. Voilà, dans un souci de transmission. Et donc, c'est bien entendu une exigence qui nous anime, c'est-à-dire que la bande dessinée historique que nous produisons, ce n'est pas généralement une bande dessinée d'aventure historique. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un grand personnage, d'une période, d'une grande bataille, d'un grand conflit. Enfin, voilà. Donc on veut quand même transmettre et pas seulement faire vivre les aventures d'un personnage de fiction. Dans notre catalogue, je prends l'exemple d'un titre que nous avons réédité, mais qui n'a pas été créé par nos soins, Thierry de Royaumont, c'était l'inverse. C'était un récit héroïque avec un héros de fiction, avec une bande de compagnons qui avaient des aventures assez dantesques d'ailleurs dans l'ambiance des croisades. C'est vrai que dans la création du Triomphe depuis, je crois, une de nos premières bandes dessinées de création, ça devait être le Padre Pio et puis Charrette, voilà, qui sont les deux premiers titres que le Triomphe a produits. Nous avons plutôt proposé de la bande dessinée biographique autour de grands personnages, avec moins de fiction. Voilà, parce qu'il y avait sans doute une attente de connaître la belle vie des grands hommes qui ont compté pour notre histoire de la part de beaucoup de familles. Et donc c'est dans cette direction que c'est orienté le Triomphe, avec de temps en temps une excursion vers des fictions, mais ça n'est pas le poids principal dans notre catalogue et dans notre catalogue de création. Il faut avoir une vigilance là-dessus. Il y a la fiction, il y a d'autres maisons d'édition qui en font très bien. On pourrait penser que c'est facile à faire ou qu'on pourrait nous-mêmes en faire. Cela étant, c'est pas complètement là-dessus qu'on est attendu non plus. C'est-à-dire que quand on fait une fiction, le public va être intéressé, pourquoi pas, mais voilà, il va aller quand même vers le grand nom, que ce soit par exemple Élite Saint-Mars, le professeur Lejeune, le maréchal Leclerc, enfin voilà, on a envie quand même que ces grands noms-là soient connus de nos enfants et des jeunes lecteurs.
Alors votre présence, Richard de Sèze, autour de la table m'intéresse parce que votre regard n'est pas forcément dans la recherche de quelque chose pour les enfants. Et ce point commun, si l'on peut dire, des bandes dessinées du Triomphe, c'est ce côté, sur le plan visuel, très ligne claire. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de la bande dessinée, Richard de Sèze, vous sentez que c'est un mode qui correspond encore à notre époque, à la fois pour les adultes et puis, vous pouvez l'imaginer, pour la jeunesse? Quel est votre regard là-dessus?
Alors, je crois que la bande dessinée a complètement conquis le droit d'être autour de la table comme moi. Voilà. Et que aujourd'hui, on lit une bande dessinée comme on lit un roman, comme on va voir un film, qui là aussi au début était censé être un divertissement uniquement populaire, et que la bande dessinée a parfaitement conquis, sinon ses lettres de noblesse, en tout cas son brevet de sérieux, par la qualité du dessin, la qualité du scénario, l'alliance unique des deux. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ce que peut-être l'édition catholique à ses débuts en avait fait, avec à part quelques glorieuses exceptions comme Don Bosco illustrant la, Jigé illustrant la vie de Don Bosco. Ouais. Voilà,
Charles de Foucault,
on était enfermé dans des choses assez sages, des scénarios assez linéaires. Et ce qui est intéressant aux éditions du Triomphe, c'est que par exemple l'album sur la tunique d'Argenteuil, scénarisé par Jacques de Gibbon, est un album remarquablement dessiné, avec un auteur totalement inspiré et qui respecte vraiment le cahier des charges des éditions Triomphe. C'est, voilà, on parle de la tunique d'Argenteuil, on raconte son histoire, mais avec une manière de d'évoquer les scènes de la crucifixion, avec une manière d'utiliser la chasse 19e comme étant un support en fait iconographique pour raconter une histoire en images, qui là est vraiment dans la modernité. Et puis il y a une autre série que j'ai vraiment trouvé très bien, ce sont les albums de Pemberton.
Alors de François d'Imberton. D'Imberton. Je comprends que vous parlez de François d'Imberton. Vous n'êtes pas le seul à avoir envie de prononcer son nom à l'anglaise, mais lui le prononce à la française.
Alors, monsieur d'Imberton a un style qui fait penser à Luc Cornillon, donc vraiment la période Chaland, et c'est une manière de raconter l'histoire de France avec des détails drôles. On a l'impression de retrouver un peu l'esprit d'Achille Talon, avec ou de Gottlieb, c'est-à-dire dans les marges, en fait, il se passe tout un tas de choses un peu rigolotes. Et à côté de ça, là aussi, c'est une véritable histoire, qu'il s'agisse de Clovis ou de Jeanne d'Arc. C'est un coup de frais tout à fait agréable. Et là aussi, le fait que ce soit bien fait pour les enfants n'empêche pas du tout les adultes de la lire, et de la lire avec profit et avec admiration. Enfin, j'ai découvert très tard les aventures de Winnie the Pooh, et j'ai été absolument séduit en tant qu'adulte par cette histoire qui s'adresse aux enfants si on veut, mais qui est surtout un petit monument de la littérature, comme d'ailleurs les trois quarts de la littérature pour jeunesse anglaise. Donc là, avec d'Imberton, pardonnez-moi, vous réussissez vraiment le même genre de petits miracles, voilà, de quelque chose qui est transgénérationnel.
Je vous remercie, mais c'est vrai que c'est un effort que nous cherchons à faire depuis plusieurs années, d'être fidèle, bien entendu, aux inspirations qui ont conduit à la construction du catalogue des éditions du Triomphe. Et donc c'est vrai, vous avez amplement raison, que c'est dans la lignée de ce qu'ont pu produire des grands artistes comme Jigé que nous avons fait de la bande dessinée biographique. Et pour autant, c'est vrai que la variété aujourd'hui des savoir-faire et puis l'exigence aussi dans l'attente de la part du public, parce que le public a l'œil habitué à un grand nombre de formes aujourd'hui dans la narration en bande dessinée, il fallait ces dernières années, pourquoi pas proposer un peu autre chose. Ça a été le cas donc avec ces deux albums qu'a signé François d'Imberton, l'un sur consacré à Clovis, l'autre consacré à Jeanne d'Arc. Alors c'est vrai qu'il y a parfois de la part de certains de nos lecteurs, des habitués du Triomphe, un petit mouvement de recul ou de surprise en pensant qu'on traite le sujet de façon humoristique et moqueuse, parce qu'il a un trait qui effectivement est un trait un peu entre Achille Talon ou Johan et Pierre Louis. Moi c'est plutôt à Johan et Pierre Louis que je pensais quand j'ai découvert son style de dessin, et en même temps la façon dont il raconte l'histoire est extrêmement, j'allais dire, classique, mais surtout, et c'est là que j'ai beaucoup apprécié son travail, elle est extrêmement lisible. C'est-à-dire qu'on n'est pas... vous voyez, je pense que vous êtes coutumier de cette question, Valérie et Richard. Avoir un livre entre les mains, le défi, c'est de ne pas le lâcher, quoi. Et le moment où on le lâche parce qu'on s'ennuie, pour pas dire les choses plus vulgairement, c'est qu'on a perdu notre lecteur. Alors certains livres, bien entendu, on y revient, on peut pas lire tous les livres d'un seul coup, mais une bande dessinée qu'on lâcherait au bout de quelques pages, c'est mal parti pour qu'on la reprenne, quoi. Et donc François d'Imberton, il a vraiment ce talent d'attraper son lecteur et de ne pas le lâcher. Et ça, il a grandi dans l'école Pif Gadget, hein, donc c'est pas tout à fait l'école Triomphe. Et en même temps, c'est un homme qui a du savoir-faire à la fois pour raconter et pour dessiner. Moi, j'aime énormément son dessin, sa ligne claire, qui est très enfantine, mais qui pour moi peut être lu par d'autres publics que les enfants, évidemment.
Le défi de la réussite d'une bande dessinée, à mes yeux, qui fait des choix pour les enfants, c'est justement cet équilibre entre texte, image, scénario, les couleurs, le trait, Et lorsqu'on a voulu trop en dire et qu'il y a des pavés monstrueux de textes, on se dit pourquoi t'as pas écrit un roman, hein? Et ça, c'est l'une des clés de réussite.
Ben oui, alors j'allais dire vous prêchez un convaincu, mais je pense aussi que c'est peut-être quelque chose qu'on a pu trouver aux éditions du Triomphe, parfois de la bande dessinée est peut-être un peu bavarde avec beaucoup de textes en tout cas, et souvent vous voyez un pavé de texte. Au-dessus de l'image, laquelle image était silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessairement de bulles ou de dialogue entre les personnages. Alors, ça fait de la bande dessinée assez roborative, hein, et il se trouve qu'il y a des enfants qui les lisent et qui retiennent en plus. Moi, j'ai rencontré des enfants qui disent, ou leurs parents me disent, il a tout appris sur tel conflit, il a tout retenu, il les relit, et il connaît tel régiment, tel ceci, tel cela, les dates. Enfin bon, il y a des enfants qui sont avides de ce genre de générosité, y compris dans le texte. Mais c'est vrai que souvent, il y a quand même, dans le média même, dans la nature même du média bande dessinée, une attente qui est celle de voir de l'action et qui est voir de l'interaction entre personnages. Et c'est particulièrement, vous le soulignez il y a quelques minutes, Richard, l'effort qu'on avait demandé à Jacques de Guilbon, qui signait là son premier scénario de bande dessinée.
Avec la tunique d'Argenteuil.
Voilà, sur l'épopée de la Sainte Tunique d'Argenteuil. Il disait, voilà, moi j'ai pas envie de faire, pardonnez-moi l'expression, de faire une BD chiante, quoi. Enfin, voilà, donc il voulait que ce soit vivant. Et donc il fallait que ce soit historiquement sérieux, bien entendu, pas du tout fantaisiste, mais vivant, et qu'on puisse traverser 20 siècles en 46 planches, hein. 44 même, si je me souviens bien. Donc il y avait ce défi-là, et je crois qu'il l'a brillamment relevé, et c'est un peu ce sur quoi aujourd'hui j'attends les scénaristes, c'est-à-dire que moi, je leur dis, je veux du dialogue. Je veux le moins possible de narratif, et ils le comprennent, ils le font, et je trouve que ça se ressent, en fait, dans les bandes dessinées qu'on est capable de sortir depuis quelques années.
Richard de Sèze, merci beaucoup d'être venu participer à ce début d'entretien. Qu'est-ce que vous voudriez poser comme question à Thibaut Dary? Quelle réflexion ce premier échange a suscité en vous?
Alors, effectivement, la disparition des narratifs, qui vient aussi de la disparition du feuilletonnage. Voilà, au début, on avait une ou deux planches de bande dessinée dans Spirou, Pilote, Tintin, et donc on avait une semaine pour la méditer, la reprendre, et donc tous ceux qui à l'époque lisaient des illustrés hebdomadaires avaient l'habitude de lire 20 fois la même histoire en attendant la semaine suivante, et donc c'était pas grave s'il y avait cette espèce de surcharge informationnelle. Ce que j'apprécie beaucoup dans la bande dessinée contemporaine, c'est sa capacité à être quasiment muette, et néanmoins, par la grâce du découpage, par l'intelligence des variations de plans, de réussir à produire un véritable récit, et c'est quelque chose qui pour le moment n'existe pas encore, il me semble, aux éditions du Triomphe. Et en revanche, vous avez parfaitement la capacité et surtout un volant de dessinateur que vous avez su renouveler pour produire des bandes dessinées peut-être un peu plus contemporaines dans le ton où l'histoire passe uniquement par l'enchaînement des cases.
Alors, est-ce que votre public serait prêt à ça, Thibaut Dary?
Alors c'est une question qui nous anime. Je pense qu'il faut y aller petit pas par petit pas, vous voyez. Et donc aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui communément le roman graphique, par exemple. En tout cas, c'est une forme de narration avec une beaucoup plus grosse pagination, hein. On est sur du 120, 160, 180 pages. Effectivement, un format beaucoup plus libre dans la façon d'habiter la page, avec parfois un seul dessin, avec beaucoup moins de texte. C'est des choses qui sont aujourd'hui présentes sur le marché. Ce sont des formes de récits auxquelles sont habitués un nombre de lecteurs de plus en plus important, mais aussi un nombre d'artistes, oui, de plus en plus important. C'est-à-dire que des jeunes talents qui sortent d'école, ou bien des scénaristes qui ont une idée, on s'aperçoit que leur idée pourrait être honorée de façon juste dans un format plus long que le 44 ou 46 planches traditionnelles. Alors, on a quelques idées en la matière, mais c'est vrai que chat échaudé craint l'eau froide. Il y a eu aussi des échecs retentissant, pas nécessairement pour le Triomphe, mais dans des maisons d'édition voisines avec lesquelles on a pu dialoguer. Le roman graphique et ses narrations plus longues garantissent pas nécessairement un succès d'estime, ne serait-ce qu'un succès d'estime de la part du public. Et donc, ça peut être des choses un peu risquées du point de vue éditorial. Donc, c'est pas nécessairement l'envie qui nous manque. On peut avoir des idées, mais pour autant, on n'y est pas encore. Je peux pas vous annoncer le prochain roman graphique dans les 6 prochains mois aux éditions du Triomphe.
Merci beaucoup Richard de Sèze d'être venu nous voir, ça m'amuse beaucoup Valérie. De vous recevoir, je vais faire ça souvent.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Alors continuons notre, justement entre tradition et modernité, quel choix faites-vous Thibaut Dary? Donc c'est une transmission qui a été lente, ordonnée, on a rendu hommage à Sophie et Didier Chalufour, on voit vos projets, qu'est-ce que vous voudriez absolument garder, qu'est-ce que vous voudriez introduire?
Alors,
de manière plus générale que la bande dessinée, que nos auditeurs comprennent.
Alors, c'est une vaste question, Valérie. C'est vrai que ce que nous aimerions garder, c'est cet esprit de transmission qui nous vaut la confiance des familles. Voilà, pour être un peu large aussi dans ma réponse, avec le fait que des parents, des grands-parents puissent se dire aux éditions du Triomphe, on a un éditeur qui... de confiance, qui produit des livres qu'on peut mettre entre les mains de chacun dans la famille, en fait. Des enfants, vous évoquiez les enfants ou les adultes qui lisent des bandes dessinées tout à l'heure, mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire que nos productions puissent se plaire à différentes générations, en fait, et qu'il n'y ait pas à rougir de ce qu'on a pu lire dans ces pages quand on est un adulte vis-à-vis d'un enfant ou inversement. Et qu'on se retrouve dans un bain culturel assez large qui est celui de la transmission de notre patrimoine, plus spécifiquement dirais-je la narration du récit national, parce qu'il y a quand même cet ingrédient là qui est fort aux éditions du Triomphe, avec des grands personnages bien sûr de l'histoire de France, pas uniquement de l'histoire de France, mais beaucoup quand même, et puis bien entendu un bain culturel qui est aussi celui du christianisme, du catholicisme occidental, avec là aussi des grandes figures, des grandes périodes, des grands saints, ou des épisodes douloureux, je pense par exemple à cette bande dessinée qui est consacrée au Christeros. Bien entendu, c'est pas un épisode européen ni français, mais c'est un épisode à la fois aventureux et en même temps tragique et magnifique du témoignage de foi et qui méritait d'être connu de la part du public et qu'on lui consacre une bande dessinée. Donc je pense que c'est un début de réponse à la question que vous posiez. Qu'est-ce qu'on veut changer? Notre public, enfin, pour peu qu'on le connaisse, mais on cherche à l'identifier un peu en l'imaginant, ou en tout cas en voyant ce que nous avons entre les mains et ce que nous voyons passer sous nos yeux. Notre public, pensons-nous, voit la production contemporaine, celle d'autres maisons d'édition, celle du cinéma, celle de la télévision, celle des plateformes de séries télévisées, et bien entendu... Il est en droit, finalement, d'attendre de notre part que nous modernisions au moins les formes, par petites touches, une nouvelle fois, mais les formes dans lesquelles nous nous exprimons et dans lesquelles nous racontons nos histoires pour que le jeune public n'ait pas l'impression d'avoir entre les mains des choses complètement déphasées. Enfin, voilà. Donc il y a cette modernisation, c'est passé, c'est un petit exemple, mais c'est passé quand même aussi par une refonte d'une identité visuelle avec un nouveau logo, avec un studio maintenant qui accompagne la production de toutes nos nouveautés. Donc il y a vraiment un savoir-faire supplémentaire qui prépare la production de nos livres et leur arrivée sur le marché entre les mains des lecteurs, avec un service de fabrication aussi qui est un service dont on bénéficie au sein du groupe Fleurus, donc qui est un service très pro, très expert. On peut aller chercher du fer à dorer, on peut aller chercher un papier particulier, on peut aller chercher un poids ou une épaisseur de papier, ou un rendu spécial du papier, des couchers mats, des couchers brillants. Enfin,
ça, voilà. C'est passionnant.
On peut vraiment soigner nos livres, et c'est voilà, le chemin sur lequel nous marchons pour que eh bien, nos clients se disent, tiens, voilà un beau livre, ouais, que j'aurais plaisir à lire, que j'aurais envie de lire, que j'aurais plaisir à offrir.
C'est une ligne de crête parce qu'en fait, votre public, vous le dites, recherche un univers de sécurité.
Oui, bien entendu.
Les jeunes lecteurs, on le sait tous, malheureusement, se détournent de plus en plus tôt du livre.
Bien sûr.
Les études du Centre national du livre récentes nous le montrent. Donc, il faut aussi les conquérir. Tout cela est très, très complexe parce que même dans l'apparence, il peut y avoir des choses qui troublent, etc. Et notamment, vous travaillez beaucoup sur des rééditions. Alors oui. Là, ça m'intéresse parce que vous avez fait des choix de réédition de romans, plutôt pour les grands, là. Mm-hmm. Je pense, par exemple, à Ces Dames au chapeau vert. Moi, je ne l'avais jamais lu. Jamais.
D'accord.
Lu. Donc, j'ai découvert grâce à vous.
Très
et
bien.
C'est un régal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et pourquoi l'avez-vous choisi de le rééditer, celui-ci?
Alors, c'est une belle histoire. En fait, c'est un livre alors que moi-même, je ne connaissais pas. Et puis, une éditrice d'une autre maison d'édition en parle à une éditrice d'une autre maison d'édition encore. Laquelle nous en parle en disant, écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ce titre, c'est ni pour ma maison d'édition, ni pour celle de l'éditrice qui m'en a parlé, mais chez vous, ça pourrait peut-être trouver sa place, et on a retrouvé les ayants droit. Voilà, alors c'est une éditrice qui travaille avec un généalogiste, voilà, et donc elle a cette curiosité d'aller voir dans des œuvres anciennes dont les auteurs ne sont... ont disparu, et bien si certaines ne mériteraient pas d'être rééditées. Donc ben voilà, écoutez, ça nous a intéressés, on a acheté le livre. Il en existe des versions anciennes
d'occasion. Ah, il y a
d'occasion.
Énormément de versions, voilà.
Bien sûr.
Germaine Acremant, disons le nom de l'auteur.
Et donc c'est la romancière qui a signé là, alors si je ne me trompe pas, c'est dans les années 30, pour moi c'est 35 de mémoire, mais peut-être que je fais erreur. En tout cas, elle a signé là son premier livre, et ça a été un très très grand succès, donc Ces Dames au chapeau vert. Non, c'est plutôt que 35, je pense que c'est plutôt dans les années 20, pardonnez-moi. C'est plutôt être 25 que 35. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se trouve orpheline. On est à Paris dans les années 20, elle a 18 ans, et donc étant orpheline, elle doit aller vivre en province, chez quatre cousines, quatre dames, quatre sœurs qui eh bien sont restées célibataires et vivent voilà une forme de j'allais dire de christianisme de provincial assez étriqué. C'est un peu vache de dire ça comme ça, mais il y a quand même un peu de ça dans
fondé sur la routine, on va
voilà.
dire
en tout ouais. cas il y a vraiment une vie très routinière. Et alors, bien entendu, cette jeune parisienne qui arrive dans cette cette petite communauté de sœurs qui a ses habitudes, elle va arriver un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et puis il y a quand même, c'est pas seulement quelqu'un qui vient chahuter, c'est quelqu'un qui découvre dans un meuble un journal intime, le journal intime d'une de ses cousines, donc laquelle raconte une histoire d'amour qui s'est achevée, et voilà, et on ne sait pas très bien pourquoi, et elle ne sait pas qui, et donc elle va enquêter et chercher à réanimer cet amour qui n'est pas perdu, en fait, et puis bien entendu il va lui arriver à elle-même aussi des surprises du même ordre. Donc voilà, c'est un récit effectivement très vivant et très charmant.
Très charmant, beaucoup d'humour, c'est romanesque, ça a parfaitement traversé le temps. C'est quand même très, très marquant de se dire, ben oui, on était là dans les années 20, effectivement, il a été publié en 1921, là, je viens
voilà,
de regarder.
Très bien.
Et ça n'a pas pris une ride. On retrouve même des choses qui correspondent à notre temps. Je pense à une autre réédition, alors là, qui m'est vraiment chère, c'est Les Naufragés des îles Auckland.
Oui.
C'est un de mes récits préférés, et qui est parfaitement adapté aux lecteurs qui n'aiment pas beaucoup les romans, qui aiment bien les histoires vraies.
Exactement.
Ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et dites-nous comment vous l'avez réédité aussi, celui-ci.
Alors là, c'était... pour le coup, quelque chose qui existait déjà, qui avait déjà été réédité, par exemple, dans la collection d'un autre éditeur, en collection de poche. La première fois que j'en ai entendu parler, je me souviens, c'est un moine bénédictin, si je me trompe pas, le père Le Gall. Alors, il y a beaucoup de pères Le Gall. Ils sont plusieurs à être, ils sont frères, ils sont prêtres. Là, c'est un bénédictin de Saint-Vendry, si je me trompe pas. Le père Le Gall fait des conférences à des entrepreneurs. Voilà. Et un jour, il raconte plusieurs anecdotes et il dit « ça vient des naufragés des îles Auckland ». Voilà. Si vous voulez savoir quelque chose sur la nature humaine, lisez ce livre.
Et la nécessité d'une structure.
Voilà. Et alors, il raconte des anecdotes. Il raconte notamment comment, par exemple, le fait de tricher ou le fait de s'adonner à la boisson sont identifiés par ces naufragés sur cette île comme des risques majeurs. Et donc, dans un cas, tricher au jeu, ben, ils détruisent le jeu de cartes qu'ils ont créé. Dans l'autre cas, ils avaient créé un petit système pour distiller et avoir un peu d'alcool, mais il y en a un qui a l'alcool mauvais ou violent, ils détruisent l'alambic. Bon, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce récit étonnant? Histoire vraie, une histoire vraie d'un Français qui se trouve sur une île au sud de la Nouvelle-Zélande avec quatre autres marins, chacun d'une nationalité différente, et ils vont devoir survivre en passant plus de 20 mois sur cette île hostile. Alors moi-même, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et j'ai été fasciné, captivé par l'esprit de, on dirait aujourd'hui, l'esprit de résilience, mais la capacité de survie de ces hommes qui sont capables de faire du mortier, de fondre des clous, de partir à la chasse à partir de débris d'un bateau. Et une force de vie, une force de résistance, et puis une capacité à se serrer les coudes et à faire face à l'adversité dans une histoire vraie qui est saisissante et qui, là, je pense, peut bien sûr plaire, j'allais dire, aux jeunes, mais aux adultes. Enfin, c'est vraiment un livre saisissant pour tous les âges.
J'ai connu un grand-père qui l'offrait systématiquement à ses petits-enfants quand ils devenaient adolescents. Je pense que c'est un magnifique cadeau.
C'est un récit de... C'est pas écrit comme ça, c'est pas un récit de formation, si vous voulez. Mais bien entendu, à le lire, on se dit, voilà ce que c'est qu'être devenu un homme, en fait.
C'est ça.
Et donc, je pense qu'à tout âge, et aujourd'hui, nous devenons des hommes dans des situations plus douillettes que celles de ces personnages. Je pense qu'on peut le lire, même adulte, ça nous appelle à une forme de responsabilité, de capacité à faire face, un appel à la prise en main personnelle. Enfin, c'est un superbe récit.
C'est une merveille. Les Naufragés des îles Auckland de François-Édouard Reynal. Il a été publié d'abord en 1870.
Voilà.
Sans cesse réédité, et le voici aux éditions du Triomphe, sorti en avril 2026. C'est vraiment un roman, et puis on parlait des valises pour les vacances. Ça, c'est un roman pour les vacances, parce qu'il va traverser les générations. Il est pour garçons, filles, le grand-père. Vous voyez, on va en parler. C'est
du tonnerre. Et puis on est vraiment dépaysé parce que là, c'est difficile de faire plus dépaysant. Moi-même, je l'ai lu un été et je me souviens que j'avais du mal à le lâcher.
Ah ouais. Alors j'aimerais aussi qu'on parle, on a parlé de ces auteurs du patrimoine qui ont été réédités au départ par les éditions du Triomphe et qui formaient cette famille. Vos auteurs d'aujourd'hui, je pense par exemple à Arnaud Brochard, qui est vraiment un auteur Triomphe, avec La Rétuse et cette grande série. J'ai ici le dernier, Le Serment de Capri. Donc, parlez-nous de ces auteurs qui viennent à vous avec des manuscrits et qui restent et qui appartiennent à cette grande famille. Parlez peut-être à travers Arnaud Brochard.
Arnaud et avec l'Arétus, c'est une de nos séries, j'allais dire, toujours en cours. Ce sont des aventures historiques. Et donc, c'est vrai qu'on est ici dans une forme de, j'allais dire, de classicisme romanesque, avec une famille qui traverse les, je vais pas dire les siècles, mais les époques, en tout cas les conflits, voilà, pour être exact.
Situez-nous historiquement.
Donc, c'est fin de la Révolution française et puis l'Empire, jusqu'à au-delà de l'Empire. Enfin, c'est le cas. On termine l'Empire avec le serment de Capri. Donc voilà, fin 18e, début 19e, avec toujours un sens vraiment aigu de la reconnaissance et du devoir et de la mémoire. Je dis ça parce que en fait, Arnaud Brochard s'inspire aussi d'histoires qui ont pu arriver à des ancêtres. Mmh. Voilà, et il va chercher ce que des actes peuvent porter comme poids et qui vont traverser le temps, créer des devoirs ou créer une dette chez certains de ces personnages. Alors, ce sont des romans qui sont, j'allais dire, vraiment portés par leur auteur. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, Arnaud est un homme qui dédicace beaucoup. Voilà. Se déplace beaucoup entre la région versaillaise où il habite et puis l'ouest de la France jusqu'à ses côtes, enfin finalement jusqu'à la Bretagne, sud de la Bretagne, Pays de Loire, et donc des pays qui sont sensibles à cette aventure maritime, parce que là ces héros traversent les mers, traversent l'Atlantique, traversent ouais. la Méditerranée, remontent dans la mer du Nord, enfin bon, voilà, il y a vraiment autour de l'Arétus, qui est le nom d'un bateau, des épisodes nombreux de navigation. Et si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui identifie cette série à l'auteur. Ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, la veine du roman historique est si facile à tenir. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse production ouais. romanesque sur le même créneau. Et en plus, il y a aussi des défis qui sont devant nous, qui sont que des genres nouveaux sont arrivés sur le marché du livre, ou en tout cas se sont déployés sur le marché du livre, et font que le roman historique assez classique reste une production un peu marginale. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ont au moins entendu parler de la fantasy pour les grands ados, pour les plus jeunes, mais aussi lus par des adultes, la romance, les romans de genre, bien entendu, que sont les romans d'espionnage, que sont les romans les romans policiers. Voilà, c'est souvent ces genres-là qui sont des romans plébiscités, le roman historique, les un peu moins. Nous sommes fidèles à un auteur aussi, en nous appuyant sur Arnaud, qui continue cette série romanesque. Mais ça me donne l'occasion, par exemple, peut-être d'évoquer un autre titre, justement, qu'on a publié cette année. Je vois que vous avez le catalogue du Triomphe sous les yeux, que vous l'avez offert à la bonne page. Je voulais parler de Zapad, l'heure des guerriers. Ça, c'est un titre dans un autre genre. Là, on est dans l'anticipation politico-militaire. Ce sont deux auteurs qui sont deux Saint-Cyriens, donc deux officiers de l'armée française qui nous ont apporté ce manuscrit. Ils imaginent une reprise d'un conflit en 2028 entre la Russie et l'Ukraine et d'autres pays, en fait, avec un nouvel assaut lancé par les forces russes. Et bien entendu, ça va aller jusqu'à impliquer fortement des personnels et des militaires français, aussi bien des commandos marines que des conseillers politiques, que des pilotes de rafale, que des capitaines d'un escadron de chars. J'espère que le vocabulaire est le bon. On a vraiment là un récit qui est plus dans le genre qu'on pourrait appeler celui du techno-thriller, un peu à la Tom Clancy.
À partir de quel âge, Zapad, l'heure des guerriers, de Paul-Marie Vachon et Antoine Camus, on peut le proposer à partir de quel âge?
Alors,
parler en tant que parent, là,
Thibaut. Ouais, non, je pense qu'on peut le lire à partir de 18 ans, vous voyez, sans problème. Enfin, alors là,
ah oui, c'est majeur, un livre adulte.
Oui, ouais. Parce que ce sont des enjeux et des situations assez pointues. Non, mais on peut le dire à 17 ans, je veux dire. Mais oui, il faut suivre quand même. Quoi.
Oui, c'est fin de lycée, peut-être,
C'est très immersif. Et parfois, on ne sait plus vraiment où donner de la tête dans les combats. Il y a une qualité de détail du point de vue technique. Et en même temps, on est quand même pris par ce récit de ce qu'est la réalité de la guerre. Vous voyez, on parle beaucoup, ceux qui suivent l'actualité militaire ont entendu ça des dizaines de fois, de la guerre à haute intensité. Mmh. Ben voilà, ça nous fait plonger dans ce que peut être la guerre à haute intensité sur un front. Et c'est inhabituel de le vivre comme ça, parce que généralement, dans les récits guerriers, on est soit dans des avions, soit dans des bateaux. On n'est pas sur la ligne de front.
C'est ça. Voilà. Excellent. Donc ça, ces deux plumes, Paul-Marie Vachon, Antoine Camus, ils sont venus vers vous avec un manuscrit.
Exactement.
Ils sont venus vers nous avec un manuscrit. À nos auditeurs, les amis.
Un peu à votre question, effectivement.
Mais oui. Voilà, un éditeur qui cherche des plumes, qui peut conseiller. Vous les avez fait travailler ou la chose est arrivée
Alors, elle avait déjà un certain niveau de maturité, c'est sûr. Mais on a fait travailler, on a fait raccourcir un peu le texte parce qu'il était... Il était malheureusement un peu long. Il y a certains points sur lesquels on a travaillé avec les auteurs parce qu'il y avait un peu de répétition ou des éléments qui n'étaient pas complètement compréhensibles.
C'est un métier, hein. C'est votre métier d'éditeur,
ouais,
ça, Thibaut Dary, de sentir là où il faut scander aussi.
Exactement. Mais c'est un métier, pardon de le dire ainsi aux auditeurs, que parfois, hélas, peut-être on ne fait pas assez bien parce qu'on est toujours à se dire est-ce qu'on le fait assez bien pour honorer, par exemple, les textes qui arrivent. Vous voyez, on reçoit des manuscrits qu'on n'a parfois pas le temps de lire, en tout cas dans l'immédiat. Je sais que, récemment, il y a un manuscrit sur lequel on s'est dit, mais c'est très très bien, on l'avait depuis plusieurs mois, voire même plus d'un an, je crois. Mm-hmm. Vous voyez, donc l'auteur a été d'une élégance absolue en nous disant, ne vous inquiétez pas, je sais que ça fonctionne comme ça, je suis très content d'être publié chez vous. Mais on sait qu'on peut malheureusement aussi passer à côté de certains travaux, de plumes qui mériteraient sans doute, pourquoi pas, d'être édités. Bon, si jamais ils trouvent ailleurs qu'au Triomphe, tant mieux pour elles, mais c'est vrai que nous-mêmes, on reçoit des manuscrits qu'on édite. On a, chaque semaine, en fait, j'en reçois. Chaque semaine, j'en examine. Et chaque année, on en publie qui nous ont été envoyés. Donc, il y a bien entendu à tenter sa chance auprès des éditeurs, à ne pas hésiter à relancer. Il n'y a pas d'hostilité envers les auteurs. Il y a au contraire un grand appétit de la part des éditeurs, mais parfois une difficulté à tout lire.
Justement, peut-être pour conclure, pourrions-nous poursuivre cette réflexion que vous amorcez sur le métier d'éditeur ? Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que le fait que les gens lisent de moins en moins, quel est votre regard, Thibaut Dary, sur le métier de l'édition en quelques minutes ?
Alors, si vous parlez de l'intelligence artificielle, vous pensez bien que vous ouvrez un peu la boîte de Pandore, et vous avez raison de l'évoquer parce que c'est quelque chose qui traverse nos métiers actuellement. Il y a la nécessité de se dire, malgré tout, comme éditeur, je suis un humain qui lit un livre. Ce livre a été écrit par un humain. Mmh. Voilà, c'est la parole de quelqu'un. Mmh. Et moi qui suis un humain, je vais travailler sur cette parole pour qu'elle soit peut-être plus claire, plus vive, plus convaincante, pour aller entre les mains d'un nouvel humain. Voilà. Donc nous sommes des porte-voix des auteurs pour chercher à les aider à bien dire, à mieux dire ce qu'ils ont à dire. Donc évidemment, l'acte d'écrire, l'acte d'éditer, l'acte de lire sont des actes éminemment humains. Après, peut-être être assisté par un outil comme l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour faire des résumés, pour plonger dans le texte et aller en extraire certains éléments. Ce sont des outils qu'on utilise un peu, mais c'est pas du tout suffisant. Et parfois, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle est très flatteuse, finalement. On lui met un manuscrit sous les yeux, si je puis dire, elle va nous dire « ce texte est formidable, bon voilà, il faut aller un peu plus loin que lui faire confiance ». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à ce type de défi. Le principal défi, malgré tout, c'est la baisse du temps de lecture.
Mmh. C'est ça.
Voilà, c'est que les écrans... mais j'ai envie de dire, nous aussi éditeurs.
Mais bien sûr.
Nous aussi, nous lisons des choses sur les portables.
Passionnés du livre, on est en lutte tout le temps, mais bien sûr.
Donc, je pense que ça mérite. Alors, il y a une opération importante là, à laquelle s'est associé le groupe Fleurus pour inciter à reprendre le temps de le lire, parce que le livre édifie et fait du bien. Mais c'est vrai que voilà, nous sommes tous à nous questionner comment... redonner sa place au livre dans nos vies, chaque jour en fait, chaque jour.
Merci infiniment Thibaut Dary, je pense que vous nous avez redonné ce petit coup de fouet de par la passion des livres. Chers amis, nous avons effleuré le catalogue des éditions du Triomphe. Pour le retrouver, vous rendez sur le site editions@dutriomphe.fr. Vous aurez tout. Vous pouvez entrer en contact avec l'éditeur. Vous pouvez remplir votre valise de bons livres pour tous les âges et dans des genres variés, nous l'avons vu. Un immense merci. Et
merci
nous,
beaucoup, Valérie.
Nous recommencerons parce que je suis très admirative de la pérennité de cette maison qui a su passer ce cap avec vous. Et c'est une grande joie pour nous, lecteurs. Merci beaucoup, Thibaut Dary.
Avec plaisir. Au revoir. Merci.
Ballate femmini schiette e maritati e sanna ballate cuori e non vi canto e non vi suono a ballate femmini schiette e maritati e sanna ballate cuori e non vi canto e non vi suono su 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 quando femmini cacci su cinne quattro scavanzati ni facemo che patati cinne quattro maccatelli ni facemo che bisetti uomini schietti e maritati essermi abballati buoni non vi canto e non vi sono abballati uomini schietti e maritati essermi abballati buoni non vi canto e non vi sono su 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 quando uomini cacci su cinque quattro scavazzati ni facemo che patati cinque quattro maccatelli ni facemo che bisetti.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Amis du Libre Journal de la Transmission, j'espère que cet extrait entraînant de Roberto Alagna vous aura donné la pêche. C'est vraiment le but de cette émission dans des domaines variés, culture, société, famille, art, l'art littéraire et puis tous les arts. J'ai deux petites annonces à vous faire, chers amis. La première vient du chapitre Saint-Lazare, qui est un mouvement de jeunes catholiques fondé en 2002 par le chapitre Sainte-Madeleine, attaché au monastère du Barou. Ce chapitre Saint-Lazare s'adresse aux garçons et aux filles de 16 à 21 ans, avec une ouverture plus large lors de certaines activités. Il est organisé en équipes réparties par zone géographique, c'est vraiment toute la France et en région parisienne notamment. Son objectif est d'amener les jeunes à découvrir ou approfondir la foi catholique dans un esprit clairement missionnaire. Vraiment mission, selon leur devise « Ut cognoscant te », pour qu'ils te connaissent. Pour cela, le chapitre s'appuie sur quatre piliers, l'amitié, la prière, la formation et l'action, et le choix d'évangéliser les jeunes par les jeunes. La pédagogie du chapitre, j'avais reçu d'ailleurs quelques-uns de ses fondateurs ou participants, parce que j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement intéressant. C'est très simple hein, tout ça, mais je crois beaucoup à tous ces canaux pour revivifier notre pays et notre jeunesse. La pédagogie s'appuie sur l'importance pour la jeunesse d'avoir une vie spirituelle solide, une formation doctrinale sérieuse et une action concrète auprès des jeunes. Vous voyez les trois points. Il est rattaché spirituellement à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barreau et célèbre la messe selon le rite traditionnel. Alors, pourquoi on en parle? Parce qu'ils organisent leur camp d'été qui aura lieu au Portugal, de Porto à Fatima. Alors là, ça fait rêver. Moi, j'ai plus l'âge. Du 3 au 21 août pour les jeunes de 15 à 21 ans, au prix de 510 € tout compris. Vous voyez, je vous donne tous les détails. Il s'inscrit dans la logique missionnaire du chapitre, ce camp d'été, un temps de vie en équipe d'une dizaine de jeunes, rythmé par la marche, la prière et des moments de formation. Ces camps d'été ne sont pas seulement des vacances, c'est un vrai temps de croissance humaine et chrétienne pour chaque jeune, catholique, expérimenté ou novice. Je suis très heureuse de vous faire part de ce camp d'été pour vos enfants, petits-enfants de 15 à 21 ans, du 3 au 21 août, le camp d'été du chapitre Saint-Lazare. Tous les renseignements, vous pouvez les obtenir de manière concentrée en envoyant un courriel à chapitre Saint-Lazare, tout accroché, @gmail.com. Je répète, chapitre Saint-Lazare, @gmail.com. Vous pouvez y aller en toute confiance et merci Nicolas Fallu d'être entré en contact avec moi pour que je puisse donner cette bonne nouvelle à nos auditeurs du Libre Journal de la Transmission sur Radio Courtoisie. Une autre annonce que je tenais essentiellement à faire, c'est celle qui vous invite à une manifestation contre la loi sur l'euthanasie. Nous n'avons plus que 6 jours pour mobiliser nos familles, nos amis, nos collègues, venir nombreux dimanche prochain, 28 juin 2026. Rien n'est joué encore et nous ne pouvons pas assister passivement à ce qui se passe. Le vote définitif de la loi sur l'euthanasie est prévu le 15 juillet à l'Assemblée nationale. J'ai envie de dire à marche forcée. Une fois adoptée, cette loi s'inscrira durablement dans notre droit. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour peser sur cette décision. On ne peut pas être toujours passif et comme le lapin dans les phares de la voiture. Et à un moment où il faut agir, eh bien c'est le temps de se mobiliser. Revenons rapidement sur le parcours parlementaire de cette loi. Je le dis pour nos auditeurs qui peut-être n'ont pas suivi tout l'historique. L'Assemblée nationale a voté le texte à 2 reprises. Le Sénat l'a rejeté 2 fois. Et la commission mixte paritaire n'a pas trouvé d'accord en mai. L'Assemblée aura donc le dernier mot. Dans sa version actuelle, le texte est particulièrement large. Il inclut le libre choix entre euthanasie et suicide assisté. Il inclut l'accès aux personnes vulnérables, vulnérables psychiquement, des gens qui ne se sentent plus à leur place dans notre société. Vous voyez jusqu'où cela peut aller. Et pour l'instant, le texte n'inclut aucune clause de conscience pour les pharmaciens ni les établissements de santé. Par ailleurs, une proposition de loi référendaire co-signée par plus de 200 parlementaires est en cours d'examen au Conseil constitutionnel. Si elle est validée et soutenue par 4,7 millions de Français, un référendum pourrait être organisé. Vous voyez, rien n'est joué. On vous invite donc à une grande manifestation le dimanche 28 juin à 16h à Paris. Le lieu exact de la manifestation sera communiqué très prochainement. Le lieu sur Internet où vous pouvez obtenir toutes les informations en temps réel, c'est appel du 28 juin, ne vous trompez pas, appel du 28juin.org. Venez nombreux, parlez-en autour de vous, c'est extrêmement grave pour tous ceux de nos frères, j'ai envie de dire, fragiles. Nous qui le serons peut-être un jour, les personnes âgées, les personnes en soins palliatifs. Alors puisqu'on parle de soins palliatifs, je vous donne aussi cette information d'amis qui se mobilisent contre cette loi sur l'aide active à mourir qui va être débattue pour la 3e et dernière fois, je vous le disais, à partir de lundi 22 juin et votée définitivement le 15 juillet prochain. Ce collectif s'appelle palliatifsolution.fr. C'est là que vous aurez les renseignements. Ils entendent mobiliser les derniers députés hésitants, mobiliser ceux qui se sont abstenus. Et en effet, si l'on va dans cette direction-là, on peut encore changer la donne. 30 députés ont voté, ayant voté, peuvent changer d'avis. Il faudrait que les 35 abstentionnistes se décident. Vous voyez, c'est à notre portée. C'est vraiment capital. C'est capital pour l'avenir de notre société. C'est capital pour l'empreinte durable que cela donnera à notre civilisation. Donc bougeons-nous. Vous l'avez compris, rendez-vous dimanche prochain, 28 juin, 16h. Le lieu vous sera communiqué, mais là, il faut qu'on soit très très nombreux. Voilà, je ne fais pas toujours des annonces, mais là, je tenais vraiment à le faire pour ces deux points. Je suis ravie d'accueillir dans ce studio de Radio Courtoisie, et pas pour la première fois, Hélène Aveau, qui est une artiste qui ne garde pas pour elle-même ce grand talent. Merci de venir présenter vos projets, Hélène Aveau. Vous avez le grand projet depuis longtemps, il mûrit. Je pense que même lorsque je vous ai reçu à Radio Courtoisie la première fois, vous l'aviez déjà dans le cœur, dans l'esprit. À partir de septembre 2026, vous proposez un institut de formation d'intervenants en pratique artistique à Versailles. Vous allez nous dire à qui elle s'adresse, cette formation, précisément, Hélène Aveau.
Bonjour Valérie, merci de me recevoir. Alors, c'est une formation qui s'adresse à des personnes qui ont un talent artistique déposé en elles, donc qui savent qu'elles l'ont, qui l'ont déjà un peu expérimenté, un petit peu ou beaucoup même, mais qui ont également un talent de pédagogue, qui ont envie aussi de transmettre. Voilà, donc je cherche vraiment des personnes qui ont ces deux fibres en elles, qui se rendent compte de l'urgence de la transmission, et puis qui ont très envie aussi de se développer en tant qu'artiste.
Donc, pour m'inscrire à cette formation, vous proposez plusieurs formations, ça on va le décliner, mais là, pour cette formation professionnelle qui est validante, j'ai envie de dire, il faut des personnes qui ont à la fois le goût de transmettre, qui ont peut-être envie elles-mêmes d'ouvrir un atelier pour transmettre.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une formation qui propose de pouvoir ensuite faire partie du marché du travail et de se proposer auprès des différentes structures qui peuvent avoir besoin d'enseignants en art. Ça peut être les MJC, ça peut être les écoles primaires qui demandent souvent des intervenants en art. Ça peut être les structures associatives, les différentes maisons pour artistes qui existent dans toutes les villes. Et puis, autrement, les ateliers privés, évidemment. Voilà.
Donc ça, c'est très intéressant. Les amis, vous qui avez au fond de vous depuis longtemps ce désir de communiquer, eh bien, grâce à cet atelier, si j'ai bien compris la forme que vous voulez lui donner, Hélène Aveau, à la fois, ils perfectionneront leur art, mais en même temps, ils apprendront à bien le transmettre. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous anime. Ça m'intéresse de savoir, d'ailleurs, Hélène Aveau, comment vous-même, vous avez été enseignée.
Alors, j'ai longtemps travaillé un petit peu toute seule, mais sans véritable formation. Et ensuite, j'ai fait, à partir de 26 ans, je crois, j'ai commencé les arts martenot. Et j'ai fini ma formation totalement.
Qu'est-ce que c'est les arts martenot ?
Alors, c'est une école qui a été fondée dans les années 30 par Ginette Martenot, qui était surtout danseuse et musicienne. Mais elle avait c'était une artiste totale. Voilà, on était en plus dans une période où il y avait une sorte d'émulation entre tous les arts correspondaient les uns avec les autres, les artistes se connaissaient, il y avait vraiment un réseau artistique.
Je vous coupe, Hélène Aveau, vous en parlez au passé, il n'y a plus cette correspondance entre les arts ?
Eh ben beaucoup moins.
Beaucoup moins ?
Beaucoup moins, beaucoup moins. On est en train justement d'essayer de refaire des réseaux, en particulier avec le petit réseau Frangelico. Je dis petit, mais il était déjà très grand dès la première année, lors de sa première édition à Saint-Roch.
Très beau.
On était 200 cette année, je crois qu'il y en était encore plus que ça. Et ça traduit vraiment le besoin que les artistes ont de ne pas être seuls, de pouvoir aussi discuter et de s'ouvrir à tous les débats qui existent. Et Dieu sait si justement il y en a au 21e siècle de débats, parce que l'art est passé par tellement de soubresauts, de vie, de grandes questions en fait, qu'on a besoin. On a besoin de communiquer entre nous, d'échanger, de se chercher ensemble, etc.
Comment procédez-vous, Hélène Aveau, dans le parcours que vous envisagez à partir de septembre pour former des artistes enseignants? Comment procédez-vous pour unifier, parce que j'imagine que vous avez des gens qui vont venir d'horizons très différents. Vous-même, comment envisagez-vous cette unification pour rendre efficace chacun des parcours ?
Je pense que ce sera toujours axé, enfin, chacun des intervenants auront à cœur de pouvoir donner un pas à pas dans la transmission de leur propre spécialité. Moi, je n'ai pas toutes les spécialités. Par exemple, je n'ai jamais travaillé profondément en tant qu'aquarelliste, portraitiste, ce genre de choses, qui est quand même très spécial. Voilà. Donc, j'attends des personnes qui soient vraiment des spécialistes de la question pour donner leur cours pendant cette formation. Et j'attends d'elles aussi, justement, qu'elles puissent donner un pas à pas, de façon à ce que non seulement les élèves puissent bien comprendre ce qu'on attend d'elles dans cette discipline, et puissent aussi le retransmettre.
J'entends dans votre réponse que vous n'allez donc pas être la seule, Hélène Aveau, à transmettre. Vous faites appel à des professeurs, des experts dans telle ou telle discipline.
Oui.
Comment les avez-vous sélectionnés ?
Mais en fonction de leur qualité artistique, de leurs compétences. Voilà, donc j'ai donc une personne qui va venir faire tout ce qui est en extérieur, tout ce qui est peinture sur le motif, parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise très bien, qu'elle a un sens de l'observation en plus, elle a une fantaisie qui est absolument fabuleuse. Voilà, une autre qui va venir nous expliquer tout ce qui est perspective de façon plus approfondie, parce que c'est une architecte qui est passée par l'école de Versailles, donc qui maîtrise très bien le sujet de façon pointue. Voilà, donc à chaque fois, vraiment des spécialistes. J'espère avoir Hélène Legrand qui viendrait apprendre tout ce qui est mer, bateau, reflet, etc. En deuxième année, deuxième ou troisième année.
Alors, présentez-nous cette formation. On a compris qu'il y aura des professeurs extérieurs. On commence à voir quel est le public visé. Vous venez de parler d'une deuxième année. Comment envisagez-vous ce cursus ?
Alors, donc, la première année serait davantage consacrée à tout ce qui est de base, en fait, du dessin. Donc, en fait, on fonctionne de façon très pédagogique et progressive en proposant tout ce qui va être ensuite susceptible d'être enseigné à des adolescents et des adultes. Je parle d'adolescents parce que quand on aborde ces bases de dessin, il faut quand même maîtriser bien la 2D, avoir un œil qui soit assez mature, en fait. Et les enfants trop jeunes, autant ils ont besoin d'expérience. Mmh. C'est important de leur faire toucher à l'art aussi, qu'ils fassent plein d'expériences. Mais ils feront des progrès beaucoup plus rapides dès qu'ils ont quelques années de plus. Donc, ça ne sert à rien de commencer trop tôt.
D'accord, ça, c'est très intéressant.
Voilà. Et donc, du coup, cette première année sera organisée autour de ce premier module de dessin, ce qu'on appelle le dessin fondamentaux. Donc, les fondamentaux du dessin avec l'initiation, mais aussi le dessin performance. Donc, ça va assez loin. Et puis, tout ce qui est... il y aura également un module d'histoire de l'art avec un professeur qui a fait l'école du Louvre et qui a une capacité remarquable de synthèse et d'intelligence. Comment dire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se contenter d'expliquer l'histoire de l'art de façon linéaire, mais elle va faire des relations avec l'histoire, l'histoire des idées. Et puis, elle va expliquer aussi tout ce qui est technique, c'est-à-dire comment peignaient les peintres, avec quelle matière, de quelle façon, etc. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux artistes actuels. C'est-à-dire qu'ils tiennent un pinceau, mais... ils sont déconnectés de l'histoire de l'art, souvent, hélas, parce qu'ils n'ont ils ont pas eu cette formation. Et inversement, les historiens de l'art, ils connaissent tout, surtout sur le bout des doigts, mais la plupart du temps, ils ne touchent pas un pinceau. Mmh. Donc, ces deux univers, ils sont tellement... il est important de les relier, de créer des ponts entre les deux. Et pour plusieurs raisons. Pour la culture générale, pour connaître un peu comment on fait les artistes et comment ils ont, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'on peut tout refaire, hein, c'est sûr. Et en plus, qu'est-ce qui nous plaît ? C'est-à-dire, vers quoi j'ai envie d'aller ? Ah, ça me fait de l'effet. Ça, j'ai envie de travailler comme ça. Tel aspect de tel artiste à telle époque me plaît. On ne dit pas qu'il faut refaire la même chose, mais je le consigne. Je sais que ça, je vais le garder en moi. Je note. Voilà. Et ça crée des ponts, en fait, tout simplement, entre le passé et l'avenir. C'est faire un pas en arrière pour faire un pas en avant, en fait.
Ce que vous dites là, ça semble être le nœud, le cœur de l'intuition que vous avez eue pour vous lancer, pour lancer ces ateliers, parce que vous venez de l'évoquer, cela correspond à un manque. Il y a eu un manque, il y a eu des ruptures. Est-ce que vous pouvez nous les redire, nous montrer tous ces manques de transmission, même dans la forme, la couleur, le respect du sujet? Et en lien justement avec les autres disciplines. Qu'est-ce que vous nous diriez de cela ? Vous avez ressenti ce manque vous-même, Hélène Aveau, et c'est là où ce que vous proposez est original.
Je pense qu'en fait, on revient de loin. L'histoire de l'art a évolué de telle façon qu'elle s'est... Elle s'est un petit peu coupée de la réalité, en fait. Alors bon, on revient souvent à Marcel Duchamp qui disait que l'art était ce qu'on décidait, ce que l'artiste déclare tel, hein, avec son fameux...
Le discours qui fait l'œuvre.
Voilà, c'est ça. Et il a été repris énormément de façon assez officielle, mais ça a quand même orienté beaucoup les apprentissages aussi, hélas. Et en fait, on se rendait compte donc à la fin du XXe siècle qu'on avait énormément perdu en termes de pratique. Et qu'on ne savait plus dessiner, par exemple, ne serait-ce que ça. Hein. Donc, la peinture, c'était encore plus affecté comme matière. Et j'ai par exemple rencontré un professeur d'art plastique en collège qui me disait que, en fait, en tant que professeur, elle n'avait jamais appris à dessiner réellement, que les professeurs n'étaient pas enseignés pour enseigner et que beaucoup en souffraient. Ils avaient besoin. Et en fait, on ne leur avait pas donné ce dont ils avaient besoin. Et en plus, on leur interdit de l'enseigner à l'école. Donc, elle trouve des manières de contourner le problème en faisant apprendre les tatouages, parce que vous avez vu les tatouages, ça peut être absolument magnifique. Là, pour le coup, on revient au dessin, etc. Mais voilà, il faut passer, il faut faire trouver des astuces pour pouvoir enseigner le dessin actuellement au collège. Et en fait, les enfants, beaucoup en rêvent de dessiner.
Mais bien sûr.
Et ça a une importance fondamentale. Le dessin qui dépasse l'objet lui-même, c'est qu'on va apprendre à regarder, on va apprendre à observer, on va apprendre à s'émerveiller. Et en fait, c'est une matière qui est merveilleuse parce qu'elle permet d'ouvrir les yeux et le regard sur la beauté de la création, par exemple.
Je voudrais indiquer à nos auditeurs à ce stade de notre entretien, Hélène Avaux, comment ils peuvent vous retrouver, voir ce que vous avez fait, voir ce que vous proposez, en leur donnant le site, où peuvent-ils se rendre ?
Alors, j'ai un site enseignant qui s'appelle l'atelierdubelvedere.com.
Atelier du Belvédère.
Voilà. Sur lesquels je montre les travaux. D'abord, j'explique la pédagogie, sur laquelle je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et je montre ce que les élèves font dans mon atelier. Et puis, quelques travaux des élèves.
Alors, qu'on ne confonde pas toutes vos propositions, Hélène Avaux, vous êtes là essentiellement pour nous parler de ce cours qui est assez unique, assez extraordinaire, que vous proposez à partir de septembre à des personnes qui sont déjà artistes éprouvées et qui veulent apprendre à transmettre. Et puis, vous proposez au cours de l'année des formations. Et j'aimerais bien que vous nous parliez des cours que vous allez donner précisément à des adolescents au mois de juillet, s'il reste de la place.
Il reste encore de la place dans le stage sur le personnage en mouvement.
Personnage en mouvement, extraordinaire.
Du 6 au 8 juillet. Et donc, je propose deux stages, l'un à la suite de l'autre. Il y a le visage, visage et expression, et personnage en mouvement. Voilà, je tiens à bien lier les mots parce que c'est pas juste le visage et c'est pas juste le personnage. Et là, on aborde deux aspects de l'art, en fait. C'est savoir représenter et puis savoir exprimer.
Redonnez-nous les dates des deux.
Alors, le premier, mais là, pour le coup, il est plein. C'est du 1er au 3 juillet. Et l'autre, c'est du 6 au 8.
6 au 8. Tout cela, on retrouve sur l'atelier du Belvédère.
On le retrouve.
Donnez-nous une idée du tarif pour un stage pour les adolescents de quelques jours ainsi.
190 euros pour 3 jours.
Redites-le.
190
euros pour 3 jours. Vous fournissez le matériel, etc.
Le matériel est fourni. Les enfants ont un carnet de croquis à porter.
Ouais.
Et pour qu'ils puissent repartir avec toutes les feuilles liées les unes aux autres, c'est important.
Et est-ce qu'au cours de ces 3 jours, vous touchez déjà du doigt ce côté pédagogie, parler des arts ? Oui, mais madame, je vois qu'en sculpture, parce que je l'ai vu à la Renaissance, en étudiant la Renaissance, on faisait les visages comme ci, comme ça, hop, et hop, ça lance une discussion. Vous avez cette liberté ?
Alors, je l'ai énormément avec les adultes, les enfants, les adolescents, ils sont un peu plus mutiques sur la question. On sent qu'en fait, il n'y a pas eu tous ces débats de fond, toutes ces questions soulevées à l'école avant ou autour d'eux. Donc, j'avance des choses, je leur montre des œuvres d'art. Je dis beaucoup de choses, il ne faut pas trop en dire non plus. Mais en même temps, il faut en effet quand même semer des graines et puis leur montrer beaucoup de choses, ce qu'ont fait les artistes avant eux.
Et puis peut-être, alors là j'en reviens à ma passion de l'apprendre à voir selon les méthodes de Jean Housset, mais montrer que tout ne se vaut pas. C'est déjà un grand pas avec des adolescents de les faire sortir peut-être d'un certain relativisme.
Oui.
Comment vous le faites avec finesse, sans heurter, comment vous arrivez à faire ça ? En travaillant peut-être ?
Oui, par le travail. Et puis c'est vrai que je suis... et c'est ça l'important aussi de développer sa fibre pédagogique. C'est pas seulement j'organise mon cours et puis je sais ce que je vais donner à tel moment, tel moment, tel moment, et j'ai tel document qui va avec tel, etc. C'est aussi l'être avec. Et c'est un accompagnement personnalisé de chaque enfant. Voir où l'enfant en est et puis petit à petit l'accompagner, sans le brusquer. Là où il en est, à partir de là, voilà, c'est sans jamais dire une parole qui casse, parce que malheureusement, voilà, on a tous connu des profs qui cassaient un peu parce que c'est ça, ça convenait pas à ce qu'ils avaient envie de voir, etc. Mais en fait, on n'est pas dans les notes. Il y a quelque chose de très intérieur. Moi, par exemple, Martenot, pour revenir à Martenot, c'est une école dans laquelle, Madame Martenot a fondé cette école-là, elle a une grande intuition, c'était de mettre vraiment la sensibilité au cœur de son art, de son enseignement. Et elle avait raison de faire ça. Parce qu'on peut faire quelque chose de très froid. Parce que je dis, on peut dessiner un personnage, on peut dessiner un visage. Mais on peut dessiner un visage sans âme. On peut dessiner un personnage sans mouvement, sans vie, sans aucun sentiment. Et donc moi, pour en revenir à son école, j'étais tellement coincée dans ma sensibilité, pour des raisons personnelles, passées, voilà, de plusieurs traumatismes, etc. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire, le mot sensibilité. Je ne vibrais pas. Et en fait, pendant 5 ans, j'ai appris à vibrer. J'ai appris à m'ouvrir, à ouvrir ma sensibilité, à comprendre ce que ça signifie, etc., grâce à l'art. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, de toucher avec délicatesse chez chaque enfant et chaque personne qui passe.
Lorsque vous allez proposer votre atelier, donc c'est un atelier au long cours, on l'a dit, à partir de septembre, ce sera situé à Versailles, n'est-ce pas ?
Oui.
Donc à Versailles, à quel rythme allez-vous recevoir les participants ?
Alors ce sont des modules qui durent une semaine, 5 jours en fait, sur 5 jours, tous les 2 mois, tous les demi-trimestres, de façon à pouvoir délivrer comme une période de stage en fait, assez intensif, le contenu de la formation, avoir véritablement des échanges aussi, parce que c'est vrai que quand on se voit toutes les semaines, parfois on a moins cette osmose qui se crée. Moi j'aime énormément l'osmose qui se crée pendant les stages. Et on sent vraiment l'ambiance qui monte. En fait, du premier jour au dernier jour, c'est fabuleux, quoi. Donc là, voilà, le but, c'est aussi de pouvoir se connaître et puis avancer ensemble. Et puis permettre aussi aux élèves de pouvoir ensuite travailler tranquillement, chacun chez eux, ou à deux si jamais ils ont la chance d'habiter pas trop loin de l'autre, etc. Et puis de venir d'un peu plus loin. Par exemple, je pourrais avoir des élèves du Mans ou des élèves de Blois.
Voilà, ils peuvent bloquer plusieurs jours.
Oui.
À condition de trouver un hébergement chez des amis, etc. Ils peuvent donc 5 jours, oui. Tous les 2 mois, oui. Venir et ainsi les pierres se posent les unes sur les autres avec un temps de décantation et de travail personnel.
Oui. Et pendant ce temps de décantation, il y a un suivi. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc on va revoir les élèves au moins 2 fois entre chaque période, soit de visu, si on peut, soit par visio.
Ah oui, c'est une vraie formation complète. Vraie formation complète. Vous avez dit que vous le feriez sur plusieurs années.
L'école dure 3 ans.
L'école dure 3 ans.
Idéalement, ce serait vraiment idéal qu'elle dure 3 ans, parce qu'autrement, c'est trop court. Ouais. C'est très riche, en fait.
Si je choisis de m'engager, c'est donc un vrai, véritable engagement, mais c'est un engagement qui peut être professionnalisant, enfin voilà, qui peut aboutir sur un projet,
c'est le but.
Je choisis de m'engager en septembre avec vous, comment ça se passe ? On signe un contrat avec vous pour 1 an ?
Oui.
Oui,
oui, il faut s'engager financièrement sur 1 an.
Et financièrement, donnez-nous une idée, parce que j'imagine qu'en faisant venir des intervenants extérieurs, en assurant ce suivi entre les sessions, tout cela s'est pris sur votre temps personnel de travail, sur justement ce qui vous fait vivre. Le lieu qui permet de laisser son matériel pendant 5 jours,
et tout plus, parce que je vais garder ce lieu.
Vous pourrez le garder en permanence.
Voilà.
Bon, il faut quand même que nos amis auditeurs se rendre compte que tout cela ne se fait pas en soufflant dessus. Quel est le prix auquel il faut s'attendre pour 1 année, par exemple ?
C'est 3 200 € par an, et c'est, donc ça fait 640 par semaine de stage, et ils peuvent payer en 10 fois s'ils en ont besoin.
Voilà, donc ça revient, en gros, si je calcule, mais je ne suis pas bonne en calcul, mais on est à peu près à 110 € par jour de formation, grosso modo. Hein.
Oui, c'est tout à fait dans la norme d'une formation même.
C'est même bas pour une formation, d'autant plus que là aussi, j'imagine, vous avez du matériel, etc.
Bien sûr.
Mais les personnes arrivent avec ce qu'elles ont aussi. Bon, on rappelle
pas tellement,
c'est
le matériel est fourni largement, sauf les carnets de croquis et les carnets de créativité, et voilà, c'est ça. En fait, tout est fourni. Après, il faudra qu'ils se fournissent eux-mêmes pour chez eux, bien sûr.
Voilà, exactement. Mais vous offrez vraiment une formation clé en main. Et et avec l'idée de pouvoir ensuite redonner et redonner en la rentabilisant, cette formation.
Oui, tout à fait. Et c'est, pour moi, je trouve ça absolument convaincant parce qu'un stage avec 7-8 élèves, déjà, on en arrive à avoir un petit bout de salaire mensuel quand même.
Bien sûr, parce que voilà, vous l'avez dit au tout début, vous vous adressez à des personnes qui vont ensuite offrir leur service à minima dans leur propre atelier, mais ensuite aussi à l'extérieur. Donc tout cela a de la valeur.
Oui, et alors on me dit souvent, est-ce que ça va être reconnu par l'État ? Alors non, je pense que ce n'est pas nécessaire que ce soit reconnu par l'État pour avoir de la valeur, justement. En France, on veut beaucoup que tout soit avec un diplôme à la fin. En art, on se rend compte que ce n'est pas le diplôme qui est important, c'est la compétence. Et en plus, et surtout, j'ai envie de dire, ce qui va changer la donne avec ces ateliers, c'est qu'ils porteront tous le même nom à l'issue. Donc il y aura un label,
Cours du Belvédère,
qui donc pourra se répandre de bouche à oreille assez rapidement avec la force des réseaux. Et dans chaque ville où il y en aura, on saura que dans cet atelier-là, on diffuse telle méthode. Et on enseigne avec tel esprit. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire, comment est-ce qu'on travaille. Et les parents, par exemple, sont toujours rassurés de savoir qu'il y a une méthode, que leurs enfants partent avec vraiment quelque chose qui ne sont pas dans la nature pendant qu'ils font un stage de 3 jours, quoi.
Vraiment, Oui, c'est la même méthode pour vos stages courts qui s'adressent aux jeunes. C'est exactement la même philosophie que vous allez transmettre et appliquer dans cette formation au long cours pour les professionnels.
Oui.
Est-ce que cette méthode, cette pédagogie repose sur copier les anciens ? Je recherchais cette citation de Ingres et il dit « il faudrait copier les anciens à genoux ». Est-ce que ça fait partie de votre travail, Hélène Avot, de partir de la copie comme ça s'est fait de manière traditionnelle ?
Alors, je dirais pas que, mais oui. Parce qu'en effet, tous les grands peintres de tous les siècles jusqu'au XXe siècle ont copié. Et parce qu'ils ont, en fait, ils ont énormément appris en copiant. Énormément. C'est fabuleux. Donc, on ne peut pas faire l'impasse de la copie. Même si on peut la dépasser un peu. Moi, quand je représente un visage, par exemple, de la Vierge qui ne sourit pas, je ne peux pas m'empêcher de le faire sourire légèrement, voilà, de changer un petit peu l'attitude. Ce n'est pas grave. J'aurais utilisé toute la technique du peintre. Donc, j'aurais énormément appris. Après, j'ai remis ma petite touche personnelle, incidemment.
Est-ce qu'il y aura des modèles vivants ?
Alors, je suis en train de réfléchir à ça.
Oui, oui, oui. Peut-être pas au tout départ, mais ça peut venir.
Pourquoi pas ? Ouais. Je suis dans une école, donc...
Oui. Donc, redonnons peut-être, justement, puisque vous l'évoquez, où serez-vous installé ?
Dans les locaux de Saint-Joseph-d'Élis.
Saint-Joseph-d'Élis, à Versailles, rue Rémilly. Oui. Vous aurez là un endroit, un atelier qui vous sera propre tout au long de, au moins, de la première année, avec ses repères. Et donc, en effet, vous serez, vous ferez attention.
Tout à fait. J'aimerais bien, mais
c'est extrêmement intéressant puisque là, vous avez aussi donc cette formation pour les jeunes au mois de juillet, les personnes en mouvement. Là, vous aurez des modèles vivants, des gens qui marchent.
Oui, les enfants.
Les enfants.
En fait, ils vont se croquer eux-mêmes. Voilà, ça c'est tant qu'on peut, on le fait.
Bien sûr,
c'est formidable. Mais ça donne une super ambiance. Ça. Des résultats sont extra.
Hélène Avot, dites-moi, vous êtes uniquement dans le figuratif ou bien vous enseignez aussi le non-figuratif, l'art abstrait ? Comment ça se transmet, ça ?
Alors,
j'ai l'impression comme ça que c'est plus facile de transmettre du figuratif. Dites-moi,
je pense que c'est important de partir du figuratif. De toute façon, ça donne une base et qui est excellente, évidemment, et c'est fondamental. On fait ce qu'on voit, on représente naturellement... Les artistes ont envie de représenter ce qu'ils voient. Après, l'abstrait, c'est une seconde dimension de l'art qui est tout aussi importante, j'ai envie de dire, même si elle est plus du côté du signe, en fait. Mais on est tous transportés par des ambiances. Ça génère en nous des émotions aussi, des choses qui sont peut-être plus profondes et qui vont peut-être plus loin, résonner plus loin que peut-être juste un bout d'arbre qui nous évoque même pas le jardin de notre grand-mère. Enfin, ça peut, mais ça pourrait ne pas... Voilà, à certains moments, on va être plus froid devant une toile réaliste que devant une toile abstraite. Donc, on sait que ça, qu'il y a une résonance et une profondeur. Voilà. En revanche, l'abstrait, contrairement peut-être à ce que beaucoup ont fait ou pensé, ne dédouane pas de connaître les règles de la composition et les règles de l'harmonie des couleurs.
Vous pouvez redire ça, Hélène Avaux. Redites-le.
Dans l'art abstrait, il est quand même fondamental de maîtriser l'art de la composition parce que ça fait partie des harmonies nécessaires à l'œil humain. On se sent bien dans certaines harmonies et mal dans d'autres. Ou alors, il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard total. Il faut, faut leur donner ce hasard. On voit bien que la nature est un hasard ordonné. Et bien là, l'œuvre d'art, c'est pareil. Et en ce qui concerne les coloris, c'est exactement la même chose. Il y a une science des couleurs qui est fabuleuse. Et que j'ai essayé de faire une synthèse dessus tellement je trouve
ça merveilleux. Ah mais oui, mais je vous avais entendu parler de ça, mais c'était passionnant.
Mais oui, c'est passionnant. Un jour, j'ai entendu dire, on est coloriste ou on ne l'est pas. Et ça m'a agacée. Je me dis, ben oui, je ne suis pas coloriste, mais je le deviendrai.
Quoi. Ouais.
Voilà. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer dans les couleurs, quand on commence à avoir l'œil qui s'ouvre et qui perçoit, c'est comme le vin quand on l'aime pas parce qu'on n'a jamais goûté le vin. Je ne dis pas goûter un verre de vin, je dis goûter au vin. Mais c'est pareil, goûter à la couleur. Voilà. Et savoir qu'en effet, il y a des règles d'harmonie, il y a des contrastes qui fonctionnent, des contrastes qui ne fonctionnent pas, ou qui nous parlent moins. Et puis, voilà, il y a des choses à faire et à comprendre, à connaître et à donner.
Très passionnant. Je voulais savoir, et d'ailleurs c'est vous qui m'avez suggéré dans notre discussion, l'intelligence artificielle dans tout ça, quel est l'avenir du métier de la création artistique, comment peut-elle cette intelligence artificielle être utile, vous apporter quelque chose, comment vient-elle parfois voler le travail, notamment dans l'illustration, je pense à l'illustration jeunesse qui me passionne, oui elle vient voler le travail de l'artiste parfois. Quel équilibre trouver? Comment sentez-vous cela, Hélène Avaux?
Alors, ce que je vois, moi, ce que je constate sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne sont pas dupes. Ils vont s'arrêter devant une œuvre d'art, alors que, quelque part devant l'IA, on se dit encore « Ah, inconsciemment, hein, c'est un fake. Voilà, on va passer vite. » Parce que c'est le travail d'une machine. Alors, on pourra m'objecter que ce n'est pas que le travail d'une machine, qu'il y a un homme qui a composé avec la machine, qui a fait peut-être avec 3-4 images l'acte créateur par excellence, à savoir celui de la composition. Mais malgré tout, en y réfléchissant avec d'autres artistes, en petit comité, c'était Monseigneur Ray qui nous avait invité à réfléchir sur l'incidence de l'IA sur la création artistique, on a finalement conclu que rien ne remplaçait déjà la matière, le travail de la matière et le temps passé dans la création. Mm-hmm. Que ça, c'était unique et précieux et que ça se voit. C'est-à-dire que le spectateur, s'il est attentif, s'il est sincère, il va le ressentir, ce travail, bien plus que quand il regardera une œuvre d'IA.
J'espère qu'il va sentir l'humain, la personne, l'information qui est passée par toutes les fibres. Je l'espère. J'en doute un tout petit peu en matière d'illustration jeunesse. Je pense qu'à force, on va s'habituer à ne plus avoir des contenus travaillés, avoir des choses un peu stéréotypées.
Mais c'est dans les peurs. Oui, je pense que il y a quand même. Je suis persuadée qu'il y a un bel avenir pour l'illustration jeunesse. À condition que chaque illustrateur trouve sa patte personnelle. Allez, c'est un chemin, c'est long, c'est dur, ça, je suis tout à fait consciente de ça, moi, en tant qu'artiste, moi, je me cherche encore, et j'espère pas de me trouver, c'est un long travail, mais moi, je pense qu'il y a encore de l'avenir, évidemment, pour l'homme dans l'art, quoi.
Et j'aurais voulu savoir quels ouvrages vous ont fait réfléchir, vous ont pétri. Qu'est-ce que vous conseillez à vos élèves comme livre autour de l'art, hein? Autour de l'art, pas forcément des choses très pointues, très philosophiques, mais à quoi pensez-vous quand je vous pose cette question, Hélène Avaux?
Alors, si vous me dites ce que je conseille à mes élèves, en général, c'est plutôt des choses assez faciles à lire, que ce soit pour les grands adolescents ou pour les adultes. Je vais conseiller Fabienne Verdier, qui a écrit « Passagère du silence ». C'est une femme qui est partie 10 ans en Chine, arc-boutée sur sa volonté d'aller découvrir comment les artistes chinois, les vrais, avant la révolution chinoise, ont travaillé. Elle voulait avoir cette transmission de la part des artistes qui vivaient cachés. Elle a trouvé et elle est restée 10 ans à apprendre d'un vrai maître chinois et ça a été extraordinaire. Maintenant, c'est une grande artiste contemporaine, Fabienne Verdier. Et elle raconte sa vie, cette expérience de vie, cette tranche de vie qui est absolument fabuleuse, dans Passagère du silence. Voilà, et on voit tous ces efforts qu'elle a fait pour devenir une artiste avec l'influence qu'elle cherchait.
Elle a travaillé sur la calligraphie, les gros pinceaux, c'est elle ça?
Oui, c'est elle.
Ah, ça c'est fabuleux.
C'est elle.
Oh ah oui, ces pinceaux que l'on tient pour ouais. calligraphier, c'est ouais. impressionnant.
Il y a
j'ai jamais
hasard.
Lu, là vous me donnez un
très bon ouvrage, très bel ouvrage de vacances.
Donc Fabienne Verdier, voilà. Passage du silence. Vous avez autre
Passagère
chose?
Passagère du silence.
Passagère. Voilà.
Quand quelqu'un n'est pas convaincu que Picasso... un sale type.
Ouais, allez-y.
Tu fais lire Grand-père de Marina Picasso.
Oui.
Voilà. Et puis, c'est intéressant parce qu'on voit bien que la déconstruction de Picasso est allée très loin, trop loin. Voilà. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup pour lui.
Il a vécu beaucoup pour lui. On le voit à travers ce livre. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On en avait déjà parlé, je crois, lorsque vous étiez venu la première fois à Radio Courtoisie. Cette supercherie, je sens qu'elle vous touche. Elle vous touche profondément.
Et parce que Picasso a avoué qu'en fait, il ne se sentait pas, il ne donnait pas le nom de véritable artiste.
Ouais.
Il a cité tous les plus grands de la Renaissance. Il a dit je n'ai pas le courage, je ne peux pas. Me mettre à leur hauteur, je ne sais plus la citation exacte.
Je ne peux pas, donc je veux...
Ah non, c'est-à-dire qu'il dit « j'ai abusé de mon public, je me suis moqué de lui ». Il le dit.
Parce que j'ai en mémoire les œuvres toutes premières de Picasso lorsqu'il avait 16-17 ans, qu'il copiait les maîtres, justement, et où il était excellent.
Il était excellent. Non, vraiment, c'était quelqu'un d'excellent.
Donc votre deuxième conseil de lecture de Marina Picasso, « Grand-père ».
Voilà. Et quand les gens veulent aller plus loin, là, en ce moment, j'ai lu avec une passion mais énorme la deux biographies de Gustave Moreau. Gustave Moreau, l'artiste mais aussi l'homme, est extraordinaire et c'est vraiment en fait un personnage clé de l'histoire de l'art. Et je ne sais pas pourquoi on en parle si peu. Parce que c'est un homme qui a été professeur. Mmh. Donc c'est pour ça que ça me touche aussi. Mmh. Il a retransmis pendant 6 ans aux Beaux-Arts. Et en fait, il a fait prendre... un petit peu à l'inverse de ce qu'on attendait de lui, une tournure beaucoup plus libre aux Beaux-Arts à l'époque, alors qu'il était considéré comme un académique aussi, de la part des académiciens de cette époque. Mais en fait, lui, quand il représentait par exemple un personnage, c'était pas juste un exercice de nu, c'était quelque chose qui allait beaucoup plus loin, voilà, qui dépassait dans sa profondeur tout ce qui... avait été fait à cette époque-là quand on traitait par exemple de mythologie pour ne parler que de ça et c'est quelqu'un qui a vraiment su transmettre et avec passion son art et avec beaucoup d'humilité et qui a su faire naître dans chaque élève ce qu'il avait à donner. Voilà, et lui c'est le père des incidemment c'est le père des fauves, des expressionnistes, de tout un tas de mouvements qui sont nés après lui.
Gustave Moreau,
oui.
Donc une biographie de Gustave Moreau, où vous avez un titre.
J'ai la biographie d'Alexandrian dans les cahiers de l'image.
Très bien.
Qui est excellente, avec les aquarelles de Gustave Moreau.
Merci beaucoup de ces trois conseils, Hélène Aveau. On le sent chez vous, beaucoup de sensibilité, beaucoup de soif de transmettre, beaucoup de compétences. Et ça, c'est pas vous qui pouvez le dire, mais moi, je peux le dire. Et nos amis qui auront été se rapprocher de l'atelier du Belvédère, atelierdubelvédère.com, le verront par votre, ne serait-ce que par votre galerie. Il nous reste une minute. Comment convaincre nos auditeurs de Radio Courtoisie à s'inscrire à ces cours qui vont être exigeants, mais où ils vont recevoir la capacité de transmettre?
En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'offrir un cadeau. Voilà, c'est comme ça que je le vis. Voilà, c'est vraiment de pouvoir donner ce cadeau à l'artiste et au futur professeur, de pouvoir devenir ce qu'il est. Et parce que je pense que quand on a un talent, quand on a ce talent d'artiste au fond de soi, on a le devoir aussi de le développer, ce talent. Et oui, pendant des décennies, c'était plus difficile et ça a été compliqué pour beaucoup de gens qui voulaient se former. Ils n'ont pas trouvé de quoi se former. Maintenant, on a un peu plus de facilité. Il y a des ateliers très, très bien qui se montent. Il y a aussi tous les peintres et les dessinateurs du Pays de l'Est, des États-Unis. Grâce aux réseaux sociaux, on voit quand même des choses de qualité qui arrivent alors que pendant des années, on ne les voyait plus, en fait. Ce talent, en fait, c'est, quand on l'a, faut le développer, c'est un devoir. C'est une phrase évangile.
On va conclure là-dessus en donnant toutes les références pour vous rejoindre. Donc, atelierdubelvédère.com, coursdubelvedere@gmail.com pour vous contacter. Cette formation artistique pour les professionnels, formation d'artiste en dessin et peinture, offrira une compétence sur deux métiers complémentaires, artiste et aussi maître d'atelier, ou pouvoir proposer ses services ensuite à l'extérieur. Donc voilà, 3 semaines par an sur 3 ans à Versailles. Chers amis, j'espère qu'on vous a convaincus. En tout cas, allez creuser cette piste, parlez-en autour de vous, parce qu'Hélène Aveau a mis toute sa passion dans ce projet auquel on souhaite beaucoup de succès. Chers amis du Libre Journal de la Transmission, je vous dis au revoir et à la prochaine fois avec grande joie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Transmission, dirigé par Valérie Daubigny, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 22 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.